OK, si vous voulez, on va aller dans Ecclésiaste au chapitre 5, versets 1 à 12. Ecclésiaste, chapitre 5, versets 1 à 12. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est par inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, et la violation du droit et de la justice. Ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est un de plus élevé encore. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Alors, aujourd'hui, on continue notre étude du livre de l'Ecclésiaste qu'on fait de façon systématique depuis déjà plusieurs semaines. Alors, aujourd'hui, on va regarder dans les versets 5 à 12 du chapitre 5. L'idée principale, j'ai donné comme titre « Premier groupe de conseils ». Sur l'adoration, sur la gouvernance et sur la cupidité. Alors, sur l'adoration, les versets 1 à 7, sur la gouvernance, les versets 8 et 9, et sur l'avidité ou la cupidité, versets 10 à 12. Alors, Salomon, jusqu'ici, a démontré, dans les quatre premiers chapitres, que la vanité, c'est vraiment une vanité pour les hommes, les poursuites humaines et terrestres, sans la centralité de la crainte de Dieu et de l'obéissance à ses commandements. Alors, je viens de terminer la lecture d'un livre sur la crainte de Dieu, et j'ai un passage que je trouve très intéressant. C'est le pasteur et auteur Mario Veilleux, qui résume très bien le sens du mot « vanité » quand il est utilisé dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors voici ce qu'il dit, voici comment, de quelle façon il le définit. Il dit « Vanité des vanités est un superlatif hébraïque qui veut dire « suprême vanité ». Le mot « vanité » évoque les idées suivantes. Une nuée qui s'évanouit, une buée, l'inconstance, la fragilité, un souffle, une muraille qui flanche, un mur qui se renverse, la futilité. Rien n'est digne de confiance, rien n'a vraiment de poids. Aucun effort n'aboutira à une satisfaction véritable. Les joies les plus profondes sont fugitives. Alors, j'ai trouvé ça dans son livre qu'il a publié, à compte d'auteur, Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, avec un sous-titre Perles bibliques pour un thème inconnu mais capital, de Mario Veilleux, qui est pasteur à l'église réformée de Saint-Georges. Alors, l'Ecclésiaste nous a illustré la vanité et la poursuite du vent dans toutes les tentatives humaines de connaître le bonheur terrestre. Alors, il avait commencé par déterminer que la sagesse humaine était surévaluée. Deuxièmement, que la poursuite effrénée du plaisir est aussi surestimée. Troisièmement, que la justice était pervertie à cause de son observation de ce qu'il voyait chez les opprimés et les pauvres. Quatrièmement, que les humains ont tendance à surestimer la liberté de leurs décisions en ignorant les mystères des voies de Dieu et de l'inévitabilité de la mort. Alors, Salomon a richement démontré que les voies vaniteuses de ces manières de vivre sont futiles. L'aiguille de son raisonnement très serré a piqué et fait éclater les ballons de leurs vaines espérances. Il avait conclu que l'homme doit se contenter d'apprécier les joies pleines de grâce du Seigneur, le manger, le boire et le travail honnête. Il va maintenant proposer des conseils sur trois sujets: l'adoration, la gouvernance et l'avidité. Alors, on va commencer par les versets 1 à 7. Alors, après avoir tout observé ce qu'on a étudié depuis le début du chapitre, chapitre 1 jusqu'à aujourd'hui, Salomon avait arrivé toujours avec la conclusion que ces choses étaient de la vanité et de la poursuite du vent. Alors, il arrive un moment où là, il va regrouper certains conseils qu'il veut donner aux leaders de la nation et aussi au peuple en général. Alors, avec la grande sagesse que Dieu lui a donnée, Salomon avait jeté un regard perspicace sur la manière d'adorer et les pratiques religieuses de ses contemporains, et en avait cerné ses manquements, ses lacunes et son caractère inapproprié et défectueux. Salomon était affligé par ce qu'il avait observé. La religion devenue froide, mécanique, superficielle et formaliste. Aussi voulut-il avertir et conseiller les leaders et le peuple quant à leurs devoirs sur les composantes de l'adoration: le sacrifice, la prière, les vœux et les rituels. Alors, on va regarder la prudence dans les sacrifices dans le verset 1. Il dit dans le verset 1: « Quand tu entreras dans la maison de Dieu, prends garde à ton pied et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas le mal qu'ils font. » Alors, on va regarder différentes idées qui sont dans le verset. Alors, il y a la première idée, c'est vraiment celle de l'entrée dans la maison de Dieu. Alors, l'idée qu'il veut développer, qu'il veut faire prendre conscience aux gens, c'est le besoin d'être conscient de ce qu'on fait lorsqu'on rentre dans la maison de Dieu. Bien sûr, l'adorateur doit réaliser son besoin de révérence, son besoin de respect, son besoin de s'être préparé aussi, et de sentir le plus exactement possible qu'ils reconnaissent devant qui ils se trouvent: un Dieu trois fois saint, plein de majesté, de puissance et des qualités infinies de sa personne, qu'on appelle ses attributs. En un mot, l'entrée dans la maison de Dieu devrait amener chez nous, chez l'adorateur, la solennité et se rendre compte que c'est un immense privilège qui est plein de grâce qu'il puisse le faire. On n'entre pas toujours, parfois, dans les églises avec une pareille attitude. La deuxième chose qu'on remarque, c'est qu'il dit, c'est l'attitude dans l'approche. Et il met ici une insistance sur le besoin d'écoute. Alors, l'adorateur doit éviter la précipitation et l'éparpillement de ses pensées pour bien écouter. Ça serait une chose, on pourrait en dire long là-dessus. Quand on va à l'église, on se devrait justement faire très attention à cela, d'avoir une attitude de pas laisser ses pensées vagabonder dans tous les bords, tous les sens, mais d'être centré sur le lieu dans lequel tu te trouves et les frères et les sœurs qui sont avec toi, et d'être dans une attitude qui est vraiment une attitude d'écoute et de volonté de changer les choses qui ont changé. Alors, on va regarder un petit passage dans Josué, au chapitre 5, les versets 14 à 15. Et il répondit, alors ici, c'est Josué qui voit... Il voit quelqu'un, puis il se demande c'est qui qu'il est. Alors, et la réponse est, il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Et Josué tomba la face contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. On a vraiment l'idée de prendre conscience devant qui on se trouve, et quand on dit l'expression « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint », c'est la même chose dans une église, mais parfois que lorsqu'on observe les gens dans une église, leur manière de se comporter, juste un petit peu avant le culte, juste un petit peu après le culte, et durant tout le déroulement du culte, on se rend compte que des fois, des choses qui sont... On n'est pas à la hauteur, comme on pourrait dire. La troisième idée qu'on regarde dans le passage du verset 1, c'est... il nous parle de la qualité de notre offrande. Et le conseil qu'il nous dit, c'est d'éviter d'agir de façon insensée, parce qu'il dit... approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Alors, si, quand on parle d'un sacrifice, bien sûr, à l'époque, il y avait le système sacrificiel hébreu qui était là en place. Alors, c'était vraiment les animaux, c'était le culte dans le temple. Alors, mais nous, on doit se rendre compte aujourd'hui que notre sacrifice, c'est notre propre corps et notre propre esprit. Alors, on peut aller regarder un passage dans Malachie, chapitre 1, versets 13 et 14, qui vient nous faire prendre conscience un peu que des fois, quand on parle dans ces versets-là d'une bête aveugle, d'une bête qui est sourde, ou bien donc une bête qui a un problème, et... le Seigneur se sert du système sacrificiel dans Malachie pour nous montrer qu'il peut y avoir quelque chose d'équivalent dans notre vie de culte dans les églises. Alors, on va relire Malachie, chapitre 1, versets 13 et 14, et ensuite, on va voir quelles applications on peut faire à partir de l'observation un petit peu plus détaillée de ce verset-là. Vous dites, quelle fatigue! Et vous la dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et vous amenez ce qui a été dérobé, ce qui est boiteux et malade. Puis vous présentez l'offrande. L'agréerai-je de vos mains, dit l'Éternel. Le trompeur est maudit, qui, ayant un mâle dans son troupeau, vous sacrifie au Seigneur une femelle défectueuse. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Mon nom est craint parmi les nations. Lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, nous nous devons de lui offrir ce que nous avons de meilleur. Une oreille attentive, des yeux spirituels ouverts, des offrandes qu'on pourrait qualifier de sacrificielles, une langue pleine de louanges, une rapidité à obéir, etc. Nous devons chercher l'intimité avec Dieu, la communion avec les frères et les sœurs, et aussi le service. Alors, quand il parle dans le verset dans Malachie, chapitre 13 et 14, d'apporter un sacrifice, quelque chose qui a été dérobé, donc c'est quelque chose qui a été volé, t'amènes quelque chose pour offrir à Dieu quelque chose qui est le fruit d'un péché, ou boiteux, ou malade, ou si on lisait tout le chapitre 1 du Malachie, il y a les bêtes qui sont aveugles, qui sont sourdes. Alors, autrement dit, l'idée, c'était que les gens amenaient pour le sacrifice à Dieu des choses qui étaient défectueuses, des choses qui étaient... Mais nous, quand on va à l'Église et que notre attention n'est pas à l'écoute, nous aussi, on peut avoir notre vision spirituelle, on peut être sourd, on peut être aveugle, quand on est distrait, on n'est pas là. Alors, il ne faut pas oublier que dans le culte des Églises, maintenant, c'est notre esprit et notre corps qu'on offre à Dieu. Mais si dans notre corps, on est absent, qu'on a les oreilles fermées, parce qu'on est distrait, on regarde ailleurs, on n'écoute pas, alors c'était un peu l'équivalent. Alors ici, je pense qu'il y a aussi l'idée, dans le verset 1 du chapitre 5, l'idée de la correction qu'on doit avoir avec notre comportement. Et réaliser que l'ignorance n'est pas une excuse. Parce que ça dit dans la fin du verset 1, « Car ils ne savent pas le mal qu'ils font. » Donc, c'est de l'ignorance. Adorer incorrectement ou de façon négligée ou non biblique n'est pas excusable, même lorsque c'est fait de façon inconsciente et dans l'ignorance. Implorons le Seigneur d'adorer convenablement et en conformité avec ses exigences révélées dans les Saintes Écritures. Donc, les exigences, c'est vivant, saint, exalté, émerveillé. C'est ça qu'on se devrait avoir dans notre adoration, ou vivante, si on parle de l'adoration, vivante, sainte, exaltée et émerveillée. Nous lisons par exemple dans le psaume 51, verset 19, « Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. » Alors vraiment, la prudence dans notre sacrifice, c'est de tenir compte de l'ensemble de ce qu'on vient de mentionner, et plus encore. Dans les versets 2 et 3, donc on a parlé qu'il donnait des conseils sur les composantes de l'adoration. On a parlé d'abord du sacrifice, ensuite il mentionne la prière dans le verset 2 et 3. Donc on se devrait d'être prudent aussi dans notre manière de prier. Il dit... dans le verset 2, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte point de prononcer quelques paroles devant Dieu. Car Dieu est aux cieux et toi sur la terre. C'est pourquoi use de peu de paroles. Car comme le songe naît de la multitude des occupations, ainsi la voix des fous se fait connaître par la multitude des paroles. » Alors ici, on a quelque chose d'intéressant à se faire remémorer par l'Ecclésiaste, par le roi à qui Dieu avait donné une telle sagesse. Et il y a plusieurs idées là-dedans. Il y a celle de la brièveté de nos prières. Nous devons réaliser que nous nous trouvons devant Dieu qui est omniscient. N'ayons pas l'audace et l'inconscience de l'informer sur quoi que ce soit. Nous devons éviter le verbiage inutile, les vaines répétitions ou les engagements imprudents. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, lorsqu'on entend parfois des gens prier, moi ça m'est arrivé à quelques reprises, de voir des gens comme vouloir informer Dieu de ce qui se passe sur la terre. C'est comme si Dieu était au courant, puis là, nous, on va y faire prendre conscience de ce qui se passe. Il y a quelque chose de complètement fou là-dedans. Donc, une idée, c'est celle de la brièveté concernant la prière. Une autre idée, c'est celle de l'équilibre. La phrase qui dit « Dieu est aux cieux et toi sur la terre » est une phrase qui est remplie, rassie de sens. Demandons au Seigneur de comprendre ce que signifient ces mots, car leur portée dépasse de beaucoup notre entendement. Alors, si Dieu est aux cieux et nous sur la terre, alors l'équilibre, c'est de prendre conscience de la grandeur de Dieu et prendre conscience de notre misère sur la terre aussi, puis de voir que... Alors, on se doit d'être équilibré. Caractéristique de notre prière, ça devrait d'être sobre. Alors, on se devrait d'éviter de vouloir impressionner ou d'épater les galeries, comme on dit au Québec, par des prières ronflantes et pleine d'orgueil, bien souvent. Donc, la brièveté, l'équilibre, la sobriété, et une dernière caractéristique qui serait très certainement souhaitable, c'est celle de la simplicité. Les plus belles prières sont celles des enfants ou des gens peu instruits, car elles viennent du cœur, et non pas pour étaler son savoir ou son éloquence. Évitons le babillage et la verbosité. D'ailleurs, c'est quelque chose qui était enseigné aussi par le Seigneur Jésus-Christ lui-même lorsqu'il est venu sur la terre. On peut lire, par exemple, sa pensée sur Matthieu 6, versets 5 à 7, lorsqu'il dit « Et quand tu prieras, ne fais pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra publiquement. Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme les païens, car ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Et donc, on avait les composantes de l'adoration. On a parlé du sacrifice, on a parlé de la prière. Maintenant, on va parler des vœux dans les versets 4 à 6. On relit le petit passage. « Quand tu auras fait un vœu à Dieu, ne diffère point de l'accomplir, car il ne prend point plaisir aux insensés. Accomplis donc le vœu que tu as fait. Il vaut mieux que tu ne fasses point de vœux que d'en faire et ne pas les accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant l'envoyé de Dieu que c'est une erreur. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car comme dans la multitude des songes, il y a de la vanité, il y en a beaucoup aussi dans la multitude des paroles, mais crains Dieu. » Alors, on va regarder quelques idées à l'intérieur de ce passage-là. Donc, l'obligation d'accomplir les vœux. En général, quand on étudie les Écritures ou quand on observe ce qui se passe dans la vie de tous les jours, on se rend compte que les hommes font des vœux lorsqu'ils sont dans le trouble, dans l'amertume ou dans l'urgence. On peut prendre un exemple biblique, celle de Anne, qui était une femme profondément dans la détresse parce qu'elle voulait un fils. Alors, on lit le passage dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 10 et 11. Elle, donc, l'âme pleine d'amertume, pria l'Éternel en répandant beaucoup de larmes. Et elle fit un vœu et dit, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Alors, on se souvient du reste de l'enseignement des Écritures concernant cela. On sait que Anne a reçu la grâce de Dieu d'avoir un fils, et ça n'a pas été n'importe qui. C'est devenu le grand prophète Samuel. Alors, elle avait fait un vœu, mais elle a pris un très grand soin. Ce qu'elle a dit qu'elle ferait, elle l'a fait. Donc, un vœu qui est fait se doit d'être accompli. C'est la raison pour laquelle on se doit d'être très prudent dans l'expression de nos vœux. Donc, on voit que un vœu s'accompagne de l'obligation de leur accomplissement. Autre idée, c'est vraiment de prendre un soin extrême dans notre façon d'exprimer notre vœu. On peut prendre un exemple biblique aussi pour nous faire comprendre le danger qu'il peut y avoir lorsqu'on fait un vœu de façon très imprudente à l'Éternel. C'est l'exemple dans le livre des Juges de Jephté. Alors, on va lire le passage et on va voir qu'est-ce que Jephté avait fait de pas correct à l'intérieur de tout cela en faisant un vœu imprudent. Alors, dans le chapitre 11 du livre des Juges, au verset 30 et 31, nous lisons « Et Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres les enfants d'Amnon entre mes mains, ce qui sortira au-devant de moi des portes de ma maison, quand je retournerai en paix de chez les enfants d'Amnon, sera à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Imaginez ce qu'il dit, là. Ensuite, verset 34 à la fin, 34 à 36, quand on lit verset 34, là, il était mis face à la folie de son vœu imprudent. Verset 34, il dit, « Et comme Jephté venait à Mitzpah, en sa maison, voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. Elle était son seul et unique enfant, sans qu'il y eût d'autres fils ni filles. Et sitôt qu'il l'eut aperçu, il déchira ses vêtements et dit, « Oh, ma fille, tu m'accables, et tu es du nombre de ceux qui me troublent, car j'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le révoquer. » Et elle lui répondit, « Mon père, as-tu fait un vœu à l'Éternel? Fais-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, puisque l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les enfants d'Amon. » Alors, on sait l'histoire. Elle a demandé à son père du temps pour vivre un genre de veuvage. Les commentateurs ne sont pas tous d'accord. Alors, quand on parle de l'Holocauste, puis après ça... On a vu de la façon dont ce vœu-là a été accompli. Il y a des questions vraiment à se poser. Mais je pense que l'idée principale, c'est celle de se rendre compte qu'on se doit d'être extrêmement prudent dans l'expression même de nos vœux, en prenant conscience que ici, lui, il n'avait sûrement pas prévu que sa fille pourrait être celle qui sortirait devant les portes de sa maison. Alors, bien entendu, les chrétiens ne doivent pas tarder à accomplir leurs vœux. Comme le texte le dit, « Vaut mieux ne pas en faire que de ne pas les exécuter. » Il y a un verset dans le psaume 76, au verset 12, « Faites des vœux, acquittez-les à l'Éternel, votre Dieu, que tous ceux qui l'environnent apportent des dons aux redoutables. » Donc, vraiment, l'idée, c'est quand on fait des vœux à l'Éternel, il faut les accomplir. Alors, de là, notre besoin d'être extrêmement prudent dans la manière de les exprimer. Alors, une autre idée entre les versets 4 à 6 du chapitre 5, il y a aussi l'idée de ne pas chercher des excuses pour ne pas les accomplir. Dans le verset 6, il dit « Ne permets pas ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant l'envoyé de Dieu que c'est une erreur. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? » Alors, deux raisons sont données ici pour lesquelles nous devrions rapidement et joyeusement payer nos vœux. La première raison, c'est parce que sinon, nous affrontons Dieu. Nous faisons le fou avec lui, comme si nous voulions lui faire un tour. Et Dieu ne prend pas plaisir aux insensés. Et la deuxième raison, c'est parce que nous nous faisons du tort à nous-mêmes et nous perdons le bénéfice de faire le vœu. Et nous encourons la peine pour la violation de ce vœu. Il eût mieux valu de ne pas avoir dit de vœu, plus sûr et plus à notre avantage, que de faire un vœu et de ne pas l'accomplir ou le payer. Mais jurer et ne pas payer encourt la culpabilité de trahison et de parjure. C'est mentir à Dieu. On peut prendre l'exemple dans Actes 5, verset 4. La terre qui avait été prétendument vendue par Ananias. Verset 4 d'Actes 5. Si tu l'eusses gardée, ne te demeurait-elle pas? Et l'ayant vendue, son prix n'était-il pas en ton pouvoir? Comment as-tu résolu cette action dans ton cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors, c'est ça le danger de faire un vœu à l'Éternel, de ne pas l'accomplir. C'est comme jouer, c'est vraiment jouer avec Dieu. Et le Seigneur dit que c'est insensé. Et ça peut attirer aussi la peine qui va avec la violation de ton vœu. Alors, c'est une folie que de plaider d'avoir fait le vœu par inadvertance. Proverbes chapitre 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prononcer légèrement une promesse sacrée et, après ses vœux, d'examiner encore. Alors, on a aussi un autre verset qui est important à réaliser et à appliquer dans notre vie de tous les jours aujourd'hui. Alors ici, dans le chapitre, dans le psaume 15, au verset 4, il y avait une question qui avait été posée dans les versets précédents. C'était « Qui habitera sur la montagne de ta sainteté? » Et dans le verset 4, il y avait comme une réponse « Celui qui regarde avec dédain l'homme méprisable et honore ceux qui craignent l'Éternel. Et s'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'y change rien. » Alors, je pense qu'il y a une leçon importante ici pour les chrétiens de se rendre compte que quand on donne notre parole à quelqu'un, ça se devrait d'être pour nous sacré et on se devrait de l'accomplir, comme ça dit dans le verset, « Fût-ce à ton dommage. » Si tu as fait une promesse folle et que, à quelque part, tu te rends compte après que tu n'auras pas dû dire ça, ben, il faut que tu l'accomplisses, quitte à ce qu'il y ait une perte pour toi. Alors, il y a un risque à faire des vœux, de ne pas les accomplir, et le risque est mentionné dans le verset lorsqu'il dit « Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles? » Alors, il faut être prudent en faisant nos vœux. Nous devons veiller à ne jamais faire de vœux qui soient un péché ou qui puissent être une occasion de péché. Car un tel vœu est mal fait et se doit d'être rompu. Si quelqu'un aurait fait un vœu qui implique l'accomplissement d'un péché, bien sûr, il pourrait être rompu. Alors, ne laisse pas ta bouche, par un tel vœu, faire pécher ta chair comme la promesse imprudente d'Hérode, par exemple, qui lui fit couper la tête à Jean-Baptiste. On se souvient du passage où il avait promis à celle qui dansait, qui lui plaisait, de lui donner tout ce qu'elle désirait, même la moitié de son royaume. Et elle a demandé, sur le conseil de sa mère, de lui donner la tête de Jean-Baptiste. Alors, c'était vraiment une parole. Il l'a accompli, mais dans le fond, ici, c'était vraiment une folie. Il a péché gravement en faisant ce vœu-là, ou cette promesse-là. Et il a péché gravement, bien sûr, en l'accomplissant. Donc, il faut être prudent en faisant des vœux. Et aussi, il faut se rendre compte que ceux qui font des vœux, qui ne les accomplissent pas, ils s'exposent à la colère de Dieu. Si nous annulons traîtreusement les paroles de notre bouche, et si nous révoquons nos vœux, Dieu, comme il dit dans le verset, renversera justement nos projets. Alors, il y a un danger de subir des conséquences à ce fait-là, qui est un danger qui peut être très désagréable, et lorsque Dieu dit « Et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? » Alors, les hommes qui n'accomplissent pas leurs vœux s'exposent à la colère de Dieu. Si nous annulons traîtreusement les paroles de notre bouche et révoquons nos vœux, Dieu renversera justement nos projets, les œuvres de nos mains. Alors, Salomon amène ici une conclusion au verset 7, car il dit « Car comme dans la multitude des songes, il y a de la vanité, il y en a beaucoup aussi dans la multitude des paroles, mais il termine en disant « Mais crains Dieu ». Alors vraiment, le verset 7, après avoir examiné les différentes composantes de l'adoration, il dit, dans le fond, quand on regarde les composantes, et qu'il le sacrifice, la prière, les vœux, et il dit, autrement dit, comme conclusion, si tu crains Dieu, ces choses-là seraient évitées. Deuxième point qu'on va regarder, c'est celle des conseils sur la gouvernance. Alors, les Juifs avaient une longue et pénible expérience de la mauvaise gouvernance politique. Ils avaient été opprimés, violentés, et avaient beaucoup souffert sous les dominations étrangères. Ils avaient été, par exemple, sous les Assyriens pendant 130 ans, sous les Babyloniens pendant 65 ans, et sous les Perses pendant 200 ans. Ils avaient donc abondamment expérimenté les souffrances dues à la corruption, à la violence et à la convoitise des dirigeants politiques. Alors là-dedans, ce qu'il veut qu'on... les conseils qu'il donne quant à la gouvernance, c'est le fait de ne pas s'étonner, dans la première partie du verset 8. Il dit, si tu vois dans une province le pauvre opprimé et le droit et la justice violés, ne t'étonne point de cela. L'oppression des pauvres et le viol systématique de toutes les formes de justice sont universellement pratiqués là où les gouvernants sont corrompus et égoïstes. Les Juifs avait abondamment expérimenté tous ces abus. Donc, le conseil sur la gouvernance, c'est de ne pas s'étonner. Un autre conseil, c'était comprendre la structure de la corruption, des gens corrompus qui s'entreprotègent. En tout cas, c'est l'interprétation des auteurs que j'ai utilisés. Car quand il dit « car il y en a des plus élevés que celui qui est élevé, et qui y prend garde, il en est de plus élevé qu'eux. » Donc, on sait, par l'observation et par l'étude de l'histoire, à la fois biblique et du monde, que les gouverneurs politiques s'assurent de la collaboration, à la fois de ceux qui sont au-dessus d'eux, comme de celles qui sont en dessous d'eux. La corruption est érigée en système par les pots de vin, les extorsions, les confiscations, l'exploitation des pauvres et des misérables et la tricherie et bien d'autres choses encore. Tous se supportent mutuellement dans leurs crimes. Alors, le verset 9, c'est conseil sur la gouvernance, c'est la faveur divine d'un roi qui comprend sa dépendance de la culture de la terre, dans le verset 9. Là, ici, j'ai mis plusieurs versets traduits de façon différente dans différentes versions pour voir, parce que c'est le verset qui, beaucoup, tout le monde s'entend dans les commentateurs pour dire que c'est un verset extrêmement difficile à sortir le sens et qui ont été traduits différemment, mais je pense qu'il y a une idée qui ressort quand même. Là, on va regarder quatre traductions. La version Sterval, qui dit « C'est cependant un avantage pour le pays qu'un roi honoré du pays. » Dans la version Derby, ça dit de façon un peu différente, ça dit « La terre est profitable à tous égards. Le roi même est asservi à la glèbe. » Et la glèbe, c'est simplement le sol, le champ qui est en culture. La version Martin dit « La terre a de l'avantage par-dessus toute chose. » Le roi est asservi au champ. Et la version second 21 dit, ce qui représente un avantage pour le pays à tout point de vue, c'est un roi qui favorise la culture de la terre. Alors on voit qu'il y a des choses en commun qui sont quand même dans les versets. Alors les interprètes que j'ai consultés disent que même les plus savants interprète, rencontre des difficultés à comprendre ce verset et à l'interpréter correctement. Alors, on pense que ça voudrait dire un roi honoré et celui qui comprend sa dépendance de la culture des champs, de son besoin du peuple pour la cultiver, et de l'ultime dépendance de Dieu lui-même pour assurer le succès du tout. Alors, on sait qu'un des rôles des rois, c'était de pourvoir à leur sujet pour qu'ils aient de quoi manger, qu'ils aient de quoi survivre. Alors, bien entendu, un roi qui comprend qu'il dépend de la terre et qu'il dépend de la collaboration de ses sujets pour la cultiver et qui dépend et qui comprend encore plus que le succès ultime de toutes ces choses-là repose dans les mains de Dieu. Et le troisième point qu'on va regarder, c'est les conseils sur l'avidité, versets 10 à 12. Alors, on a vraiment l'idée que l'argent n'apporte pas la satisfaction dans le verset 10, je veux dire. Celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent, et celui qui aime un grand butin n'en est pas nourri. Cela aussi est une vanité. Toute observation attentive des personnes qui ont beaucoup d'argent nous convaincra qu'ils ne seront jamais satisfaits, mais qu'ils en voudront toujours plus. Ils sont insatiables et ont soif pour plus et pour plus. Il en est de même pour ceux qui aiment la vie facile et luxueuse. Ils en voudront plus, plus et plus. Salomon a une grande expérience de ces choses et il affirme catégoriquement que cela est une vanité, dans le sens qu'on a vu. Alors, il serait profitable ici d'aller relire la définition du mot vanité, telle que définie par le pasteur Mario Veilleux en introduction. Alors, deuxième idée, dans le verset 11, c'est que l'argent d'abondance apporte aussi la frustration. On relit le verset 11, « Or, il y a beaucoup de biens, il y a beaucoup de gens qui la mangent, et quel avantage a celui qui le possède, sinon qu'il le voit de ses yeux? » Deux réalités pénibles et frustrantes sont annoncées ici par l'Ecclésiaste. La première, c'est que les richesses attirent les profiteurs comme les mouches sont attirées par le miel. Proverbe 19, versets 6 et 7, plusieurs flattent celui qui est généreux, et chacun est l'ami de l'homme qui donne. Tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis se retireront-ils de lui? Il les presse de ses paroles, ils ne sont plus là. Donc la première, c'est que les richesses attirent les profiteurs, et celui qui a beaucoup de richesses, quand il voit des profiteurs arriver, il se sent comme siphonné de ses biens. Et la deuxième idée, c'est celle que le riche n'a pas souvent le temps ou le loisir de profiter de ses biens, tellement il est occupé par le fait de protéger et de faire croître ce qu'il a déjà. Et dans le verset 12, on a l'idée que l'argent accroît l'anxiété. Ça dit « Le sommeil du travailleur est doux, soit qu'il mange peu ou beaucoup, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. » Alors le riche est terrorisé par la peur de perdre son pouvoir. Cela l'empêche même de dormir paisiblement. Il est accablé par les soucis et écrasé par le poids de son ambition. Alors j'ai trois applications à faire à partir du texte d'aujourd'hui. Je dirais, adorons le Seigneur de manière biblique. La fausse adoration est jugée sévèrement par le Seigneur. Prions Dieu de nous faire comprendre ce fait pour sa gloire. Alors j'ai mis dans le, pour ceux qui vont télécharger les notes, une partie de la Confession de foi baptiste de Londres de 1689 au chapitre 22, paragraphe 1. On la relit parce que le passage, ce paragraphe-là résume assez bien la façon dont les chrétiens se doivent de se comporter concernant une manière d'adorer qui convient au Seigneur. Ça dit « La lumière de la nature montre qu'il est un Dieu qui a seigneurie et souveraineté sur tout, qui est juste, bon et fait du bien à tous, et qui, par conséquent, doit être craint, aimé, loué, invoqué, cru et servi par les hommes de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Mais quant à la manière de lui rendre un culte, c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné et précisé par sa volonté révélée, de sorte qu'aucun culte ne peut lui être rendu selon l'imagination et les méthodes des hommes, ni selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit, ou quelque autre manière non prescrite dans les Saintes Écritures. » Il y aurait beaucoup très long à dire là-dessus, parce que les églises modernes aujourd'hui s'éloignent un peu de la manière d'adorer telle que définie par les Saintes Écritures. Deuxième idée, pour conclure, sachons que la gouvernance s'exerce dans un monde déchu, et que nous ne devons pas se surprendre de sa corruption. Mais cependant, sans vouloir les imiter ou se servir du fait qu'ils sont corrompus pour justifier nos propres actions, prions plutôt pour de la sagesse parmi nos dirigeants, comme on lit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Et dernière chose dans la conclusion, « Demandons à Dieu la grâce de faire mourir l'avidité dans nos cœurs. » Matthieu chapitre 6, verset 20, comme le Seigneur disait lui-même, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. C'est là où ton trésor, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Que l'Éternel soit béni, que Jésus-Christ soit adoré, que le Saint-Esprit soit exalté. Glorifions Dieu par notre obéissance, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.
Amen.